Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pageau et Jean-Philippe Marceau. Comme promis la dernière fois, on va continuer de parler de la Genèse et spécifiquement de Genèse 3, puis on va expliquer aussi comment Jésus vient renverser ce narratif-là. Donc, pour commencer, comme les autres fois, je vais juste lire le chapitre, puis ensuite on va commenter. Donc, Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. La femme répondit au serpent, Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, Où es-tu donc? Il répondit, J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Le Seigneur Dieu reprit, Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme, Qu'as-tu fait là? La femme répondit, Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme, Je multiplierai la peine de tes grossesses, c'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. Il dit enfin à l'homme, Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras la nourriture en cultivant les champs. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens, car tu es poussière et à la poussière tu retourneras. L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Puis le Seigneur Dieu déclara, Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ne permettons pas qu'il s'avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive éternellement. Alors le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Il expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden les kéroubims armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie. Donc voilà pour Genèse 3. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. On peut commenter section
Ouais.
par section. Au tout début.
Comment parler peut-être des premiers versets ou quelque chose comme ça? La première section où le serpent s'approche de Ève.
Exact. Donc ça dit que le serpent, même au tout début, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Puis le mot rusé ici, ben, il peut être traduit de plusieurs façons, mais ça a rapport avec l'idée d'être rusé, d'être nu, d'être innocent aussi. Puis il y a quelque chose avec le fait que le serpent est comme un des animaux qui est le plus proche de l'homme, peut-être l'animal qui est le plus proche de l'homme, le plus intelligent comme les humains, puis c'est par lui qu'on va être tenté.
Oui, ça, mais Saint Jean Chrysostome, il dit que le serpent, c'était comme un chien, dans le fond. Que c'était comme, il était proche de l'homme dans ce sens-là. T'sais. Ce qui est intéressant, c'est aussi de dire qu'il est un animal des champs. T'sais. Puis, je ne sais pas si on l'a mentionné la dernière fois, mais par exemple, on imagine toujours, puis c'est ce qu'on voit dans l'image, quand on dessine, quand on fait l'image du Jardin d'Éden, souvent on met le serpent tourné entouré autour du fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Saint-Éphrem le Syrien, par exemple, il dit que le serpent était à l'extérieur du jardin. Puis qu'en fait, non seulement le serpent, mais tous les animaux, en fait, étaient à l'extérieur du jardin. Fait que la façon de le comprendre, c'est qu'il y a comme le jardin, c'est une montagne. Puis là, tu as une limite qui est comme la limite du jardin. Puis là, après ça, tu as le champ, la plaine. Puis les animaux sont là. Puis ils viennent au jardin. Puis là, Adam les nomme. Puis après ça, ils repartent. C'est ça, on en avait parlé, je pense, la dernière fois. Mais c'est pour ça l'idée que le serpent, il est comme un animal des champs. Si tu comprends que le jardin, c'est une montagne, tu peux comprendre qu'il arrive de l'extérieur, dans le fond. C'est ça, l'idée. C'est bon de penser, par exemple, pourquoi qu'il y a un serpent dans le jardin. On a souvent cette question-là, mais dans le texte, ça ne dit pas que le serpent il est dans le jardin. Ça dit juste que le serpent parlait à la femme. Puis que le serpent, c'est un animal des champs qui était rusé, qui était particulier, là, qui avait quelque chose de particulier. À propos de lui, tu sais, qui était subtil, disons. Fait que ça, c'est important de le comprendre si on veut comprendre comme une genre de structure, parce que dans le fond, le serpent, c'est ça qu'il représente. Il représente l'extérieur, tu sais. Il représente l'étranger, il représente la chose qui est pas tout à fait, qui fait pas tout à fait partie du système, là. On pourrait dire qu'il représente le changement, qu'il représente la variabilité, il représente toutes ces images-là. Là. C'est pour ça, un serpent, tu sais, un serpent, c'est quelque chose qui est pas fixe, tu sais, qui fait ça, qui bouge d'un côté puis de l'autre. En fait, le serpent, c'est le seul animal qui peut être de deux endroits en même temps, là, tu sais, parce qu'il peut faire ça, tu sais, il peut être à gauche puis à droite en même temps. Puis aussi, le fait que le serpent change sa peau aussi, je pense que ça fait partie de l'imagerie du serpent dans ce contexte-ci, que le serpent, il représente, dans le fond, le changement. Là.
Ouais, puis je pense qu'il y a
On pourrait dire la mort,
aussi.
le changement, transformation.
Ouais, puis il y avait des bons points que ton ami John Pearson y avait mentionné de temps en temps là, sur évolutionnairement, on a évolué entre autres notre appareil visuel pour détecter les serpents puis qu'on se fasse pas manger par eux. Fait qu'on a tout le temps été en une genre de course, les primates avec les serpents. Puis une grosse partie de notre intelligence s'est reliée au fait qu'on a un gros cortex visuel. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui voient mieux que les humains. Puis fait qu'on peut voir quand même que le serpent a comme provoqué quelque chose chez l'homme, même juste au niveau évolutionnaire.
Son développement.
Donc, ça...
Mais le serpent, il est un prédateur là, aussi. Là, t'sais, il est ce qu'on n'est pas. Peut-être c'est une meilleure façon de le comprendre. C'est comme un être qui n'est pas nous. T'sais. Fait que tu peux l'imaginer comme un peu comme tu as dit, t'sais, le fait que le serpent, disons, t'sais, un camp d'êtres humains, puis le serpent qui rentre dans le camp, puis qui est dangereux dans le fond, puis qui peut comme être caché aussi. T'sais. Si un lion rentre dans le camp, tu le sais. T'sais. Si un autre genre de prédateur arrive, ben, tu le sais, tandis que le serpent, il peut être caché, il est subtil, il arrive dans le camp de l'extérieur. Fait que c'est pour ça que l'être humain, il est expert à le détecter, parce que il est beaucoup plus dangereux que d'autres prédateurs parce qu'il se présente de façon secrète, on pourrait dire, là, tu sais, il peut rentrer sans qu'on s'en rende compte, là.
Puis après ça, l'autre question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait que le serpent parle puis que Ève est capable de l'entendre. Il y avait une remarque que ton frère avait faite, là, que Adam nomme les animaux, mais que Ève écoute les animaux. Puis ça semble avoir avec le fait que c'est même dans la vie de tous les jours, c'est un peu ça qu'on observe. L'homme va plus avoir tendance à être, disons, actif qui vient imposer des structures, puis la femme va être plus celle qui va comme écouter le potentiel. Puis là, avec l'association que tu as faite du serpent, avec le potentiel, avec l'extérieur, avec le changement, c'est comme si la femme est plus portée à écouter ça, puis à être la médiatrice comme
Oui.
du changement pour l'homme.
Oui, mais Mathieu, son intuition par rapport à ça, c'est vraiment une intuition incroyable. J'ai l'impression que les gens ne saisissent pas jusqu'à quel point cette intuition qu'il a eue par rapport à le rôle à ce qui arrive entre Ève, la fonction de Ève, la fonction de la femme, disons, dans une communauté. T'sais, un, la femme, t'sais, dans la majorité des cultures, il y a des exceptions, mais vraiment dans la majorité des cultures, en tout cas qui sont reliées aussi aux cultures de l'Occident, puis aux cultures même du Moyen-Orient et tout, tu sais, quand une femme marie un homme, elle quitte sa famille pour intégrer la famille de l'homme. Il y a même des groupes où, par exemple, on prend les femmes chez d'autres, comme on voit ça dans l'histoire de la Bible. Les enfants d'Abraham, ils vont ailleurs chercher des femmes, puis ils ramènent la femme chez eux. T'sais. Fait que la femme, par cette fonction-là, d'être une étrangère qui entre dans la famille elle-même, elle a cette fonction-là, de rajouter du potentiel à la famille, juste par sa propre présence dans la famille, mais pas juste ça, parce que la femme, c'est elle qui introduit les enfants, tu sais, dans la vie de la communauté aussi. Fait qu'elle introduit la nouveauté, elle introduit des êtres qui doivent être adoptés, on pourrait dire, tu sais, qui arrivent de la femme, puis là, qui doivent être intégrés dans la société, par la structure, par le nom, par tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme son intuition est tellement bonne de comprendre que la femme, elle a ce rôle-là constamment d'intégrer le potentiel, mais pas juste ça. T'sais, le fait que les femmes sont reliées avec l'idée de préparer la nourriture, puis que les femmes prennent la nourriture, la préparent, puis là, que c'est elles qui l'offrent aux hommes. Les hommes mangent la nourriture que les femmes préparent, etc., etc. L'intuition est tellement bonne de comprendre qu'en fait, le rôle de la femme. Puis c'est un rôle qui est vraiment positif, c'est-à-dire on pourrait le comprendre au niveau plus métaphysique, là, plus au niveau cosmologique, on pourrait dire que le féminin, dans ce contexte-ci, il représente la voix du particulier par rapport à l'universel, ou la voix du particulier par rapport à la loi ou au principe ou au nom. Parce que il faut que le nom, il faut que la raison, il faut que le but, tout ça s'accommode d'une certaine façon à son incarnation, aux possibilités. Si tu décides que tu vas faire, je sais pas moi, tu vas construire un bâtiment, puis là, tu n'écoutes pas le sol, puis tu n'écoutes pas l'eau qui passe ici, puis tu n'écoutes pas le contexte, ben tu peux avoir tous les plans du monde, mais ton plan, il ne va pas fonctionner. Fait qu'il faut avoir un plan, puis quelque chose, mais il faut que le plan écoute les particularités pour que ça puisse s'accoler ensemble. Fait qu'elle joue ce rôle-là. Fait que dans ce contexte-ci, c'est vrai, t'sais, c'est vraiment beau juste au niveau esthétique de penser, Adam nomme les animaux, mais pas seulement les animaux, il nomme Ève. T'sais, on le voit, t'sais, fait qu'il nomme les animaux, il nomme Ève, puis là, elle, son rôle, c'est de multiplier l'homme. Mais à cause de ça, ben, elle a aussi le rôle d'écouter ce qui vient de l'extérieur. Le fait qu'elle entend le serpent, c'est pas particulièrement bizarre. C'est intéressant parce que tu pourrais te poser la question même dans l'histoire. Est-ce que Adam entend le serpent? Peut-être que non. Peut-être qu'Adam ne peut pas entendre le serpent, en fait. Dans le texte, elle dit que le serpent, c'est à Ève qui parle. Fait qu'elle, elle entend, elle a la capacité d'entendre. Le serpent, elle entend ce qui est étrange, qui est nouveau, le potentialité, l'extérieur, puis elle vient porter le message de ça à Adam, si on pourrait dire comme ça. C'est ça son rôle, dans le fond. En tout cas, c'est vraiment une super intuition qui aide vraiment. Puis c'est pas juste de comprendre l'histoire de la Bible, c'est vraiment comprendre le rôle de yin-yang, le rôle du masculin puis du féminin, puis comment c'est absolument nécessaire pour n'importe quelle structure d'exister, d'avoir ces deux aspects-là. C'est d'avoir le plan ou le nom ou la raison, puis d'avoir quelque chose, un aspect qui est attentif à la particularisation du plan, t'sais.
Ouais. Donc là, Ève écoute le serpent, elle décide de prendre du fruit. Ensuite, Adam en prend aussi. Puis ensuite, ça dit que leurs yeux s'ouvrent et ils se rendent compte qu'ils sont nus. Une petite chose, je sais pas
Okay, mais attends,
si.
là, ce qui est important, juste dire un truc par rapport à ça, c'est que d'une certaine façon, comment je pourrais dire, d'une certaine façon, ça marche de ce côté-là, mais il y a un truc, on pourrait dire, dans ce qui se passe, c'est que un des aspects du potentiel ou de l'extériorité, comme le monstre qui vient de dévorer aussi le plant, tu sais. Puis là, dans ce contexte-ci, c'est ça que le serpent il est en train de faire. Le serpent, il ne vient pas juste présenter du potentiel pour le plan de Dieu. Il dit, c'est pas le bon. T'sais. Ce qu'il dit, c'est pas vrai. C'est comme, il manque quelque chose. Moi, j'ai la vraie affaire. T'sais. Fait que c'est tout de suite une inversion. Tu sais, quand même, il faut comprendre que même si Ève elle a ce rôle-là, ce que le serpent est en train de dire, ce qu'il est en train de faire, c'est déjà une inversion de la vraie structure, là, tu sais.
Il y a quelque chose là-dedans que je trouve pas si simple à comprendre, parce que de voir l'association entre le serpent et le potentiel, ça va bien, c'est assez clair. Mais ce qui peut être un peu bizarre, c'est de comprendre pourquoi le potentiel est autant personnalisé dans quelque chose d'autant précis que le serpent, puis comme autant intelligent. De prime abord, on pourrait s'attendre peut-être plus à ce que un agent du potentiel soit. Viennent amener un chaos, mais viennent pas nécessairement amener quelque chose qui est exactement l'inverse de comment les choses devraient être. On s'attendrait pas, disons, à quelque chose de, je sais pas, précis puis cohérent, si ça fait du sens.
Ben, c'est que l'agent du chaos, OK, une des choses que l'agent du chaos fait, c'est d'amener la révolution. Tu sais, puis c'est pas. Des fois, c'est nécessaire. C'est nécessaire, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment une révolution. Tu sais, ce que le serpent, il est en train de faire, c'est l'équivalent de d'autres histoires où. La mer, par exemple, tu sais, dans la cosmogonie de Hésiode, que souvent j'utilise comme exemple, tu sais, où la mère s'associe avec les enfants pour castrer le père, tu sais, où c'est comme on veut pas, tu sais, on veut pas son autorité, on veut pas le fait que le père décide ce qui est bien et ce qui est mal, on veut nous-mêmes prendre le dessus sur ça, puis, tu sais, fait que là, ce qui est en bas, en fait, vient essayer de subjuguer ce qui est en haut, tu sais. Puis ça se fait par. Tu sais, c'est vraiment subtil. C'est ça qui est dur, c'est qu'on pourrait parler de ça pendant toute la journée, là. T'sais, ce que le serpent il propose, c'est vraiment subtil. T'sais. C'est vraiment subtil parce qu'il, dans le fond, il dit, il met en Ève le désir d'être comme Dieu. T'sais. Fait qu'il met en Ève un désir révolutionnaire, t'sais, déjà à la barre. Il dit. Il y a vraiment tout un truc, hein, tu sais, puis moi, je le comprends pas tout à fait, parce que les deux, ils disent des choses qui sont pas vraies dans la première phrase. Dans les premières
Ève
phrases.
aussi.
La première... Oui! Parce que, check, le serpent, il dit, est-ce que c'est vrai que Dieu, il vous a dit que vous pouvez pas manger des arbres du jardin? J'ai Dieu, il a pas dit ça. Puis Ève a dit, Dieu, il a dit qu'on devrait pas toucher ou manger l'arbre du jardin. Mais Dieu, il a jamais dit de pas toucher l'arbre. Il y a déjà un
C'est
truc
vrai.
bizarre qui se passe tout de suite au début, là. Il y a comme un genre de déformation qui se passe. T'sais. Puis le serpent commence par poser une question. C'est une question qui est comme tordue, t'sais. Une question qui est mal cadrée dans le but de t'sais. Puis d'ailleurs, c'est ça que le potentiel peut faire des fois aussi, là. C'est comme de poser une question. Tu as juste à penser à, disons, une entrevue, là. Une entrevue où il y a une personne qui parle et une personne qui pose des questions. T'sais, la personne qui pose des questions, là, elle peut poser les questions. Avec un mauvais cadre pour te truquer à faire quelque chose que tu ne voulais pas faire. T'sais. Si tu n'es pas attentif à la question, tu peux réaliser que la question, elle contient une sorte de parasite à l'intérieur. Puis c'est ça que, tu sais, c'est ça qui est déjà fascinant dans ce que le serpent fait. Le serpent, il fait juste poser une question. Moi, je fais juste poser une question. C'est vrai que Dieu, il a dit que tu ne peux pas manger des arbres du jardin? Voyons donc, ça n'a pas d'allure, ça n'a aucun sens. Puis là, elle dit non, il a juste dit, tu sais, de pas être touché puis de pas prendre de l'arbre qui est au milieu du jardin. Puis là, on dirait que déjà le truc commence à tordre tout de suite au début, là.
C'est une bonne remarque, c'est mystérieux, je comprends pas vraiment pourquoi. On dirait, tu sais, du serpent, ça peut avoir l'air simplement intelligent, de pas commencer tout de suite avec donc quelque chose de trop
Mais c'est sûr.
directement relié à son
Ouais, de
intention,
tweet.
mais je sais pas pourquoi Ève a déviré tout de suite. Elle avait pas besoin de dire qu'elle pouvait pas toucher à l'arbre. Je sais pas pourquoi elle a fait ça, c'est bizarre.
Non, c'est assez particulier. Non, c'est assez particulier parce que, dans le fond, c'est. Gabin, check bien, une façon de le comprendre. Ce texte-là, il est tellement subtil. Le serpent, il dit, c'est vrai que Dieu, c'est un tyran qui ne veut pas que tu manges aucun des arbres du jardin? Ben non, ça n'a aucun sens. Puis là, elle défend Dieu, mais là, on en met plus sur Dieu que ce que Dieu avait. Elle dit, non, non, il ne veut juste pas qu'on mange et qu'on touche celui du milieu. Ça, c'est vraiment puissant, là. C'est super puissant. Il y a des gens qui font ça tout le temps. Tu fais ça tout le temps dans les médias ou dans les trucs où on dit on exagère. Puis là, on force la personne à descendre un peu de mon exagération, mais je l'ai contaminé par mon exagération. T'sais, c'est comme si tu voudrais que. T'sais, c'est comme. Regarde, je vais donner un exemple, là, t'sais, un exemple qui est plate, mais que c'est ça. T'sais. T'sais, Trump, c'est un nazi. Trump, c'est un nazi, c'est là. Il veut tuer tous les êtres humains sur la Terre. Il aimerait ça, là, éliminer la démocratie partout sur la Terre, puis être le tyran du monde. Puis t'es comme, ben là, non, là, wow, là, t'sais, il est pas. T'sais, il est un peu dur, là, il est un peu. C'est sûr qu'il est un peu, mais non, mais il est un peu comme ça. T'sais. Fait que là, je t'ai contaminé en allant tellement loin. Que là, toi, tu reviens, mais on dirait que tu m'en donnes. Tu sais, en tout cas, moi, je vois ça là-dedans. Là, c'est vraiment subtil au maximum.
Bon point. Je pense on je suis
Là.
pas sûr qu'on va se
On
réinscrire
finira
à se
jamais
rendre à
le
travers,
chapitre
mais
3 en une heure. Là, parce qu'il y a tellement de trucs dans ce texte-là. Là.
un truc que je comprends pas exactement, là, que je trouve bizarre, c'est dès que Adam mange du fruit aussi, ça dit que les yeux des deux sont ouverts, puis ils se rendent compte qu'ils sont nus. Mais avant que Adam mange, ça disait déjà que Ève avait mangé. Fait que tu sais, c'est comme si Ève, elle mange, puis il n'y a rien qui a changé pour elle au niveau de ses yeux, puis elle se sent pas encore nue. Mais une fois que Adam, lui, mange, là, ça débloque.
Ouais,
Je
c'est
comprends pas
intéressant,
pourquoi.
hein? Je sais pas. Hein? Moi non plus, j'avais jamais pensé à ça. Ouais, c'est comme si elle réalise pas ce qui se passe jusqu'au moment où qu'elle fait manger son mari, là. T'sais, je pense qu'il faut le comprendre. T'sais, parce que dans le fond, ce que le serpent fait à Ève, Ève fait à Adam. C'est une façon de le comprendre, là. T'sais, parce que elle est liée avec l'extériorité, mais pour Adam, elle est son extérieur aussi. T'sais, parce que t'sais, quand Dieu crée Ève, ça dit qu'elle est comme celle qui lui fait face, là, t'sais, elle est comme son genre de l'opposé de lui, là, pas dans un mauvais sens, mais dans un bon sens. Fait que t'sais, je pense que c'est peut-être une façon de le saisir, c'est que ça se passe comme. T'sais, on dirait que c'est comme impossible qu'il y aurait une autre façon que ça l'arrive. T'sais, parce que c'est les deux, c'est la même chose, juste à différents niveaux. Le fait qu'Ève mange l'arbre, que le fait que Adam mange, c'est juste. Ça se passe comme juste à différents niveaux, là, la même affaire. Ça veut dire, c'est la façon que je le comprendrais, là. Mais tu sais, pour continuer là, directement à partir du texte, le serpent, c'est intéressant parce que le serpent, il ment pas totalement. T'sais. C'est ça qui est fascinant dans cette affaire-là. Parce que toi, Dieu ne leur a pas dit que s'ils mangent du fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils vont devenir plus comme Dieu. Dieu leur a pas dit ça. Mais c'est vrai. Fait que le serpent, il y a comme un genre de secret, tu sais, je sais pas, tu sais, il y a comme quelque chose qu'il sait par rapport à cette arbre-là, puis il l'utilise. C'est comme une fausse vérité, c'est comme un dans le commentaire qui dit, il y a quelque chose de vrai, quelque chose de faux. Fait qu'il dit c'est pas vrai que vous allez mourir. Puis il dit, quand vous allez manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Fait que ce qu'il dit, c'est vrai, puis c'est faux. Il y a un truc qui dit qu'il est vrai, puis un truc qui dit qu'il est faux. C'est ça qui est aussi. En tout cas, il y a quelque chose de fascinant aussi. Si tu veux comprendre. Tu sais, genre, là, je sais pas pourquoi je suis tombé dans ce mode-là, mais si tu veux comprendre comment le sens peut être utilisé contre lui-même. T'sais, ça, c'est un autre exemple incroyable qui est semblable à celui que j'ai dit avant. C'est-à-dire, tu dis quelque chose qui est 90% vrai, puis là, 10% faux. C'est la meilleure façon de mentir. C'est la meilleure façon d'utiliser le sens. Parce que si je te dis quelque chose qui est totalement faux ou qu'il n'y a pas du vrai dedans, t'sais, ça ne va pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que je te dise quelque chose qui est totalement, quasiment vrai. Là, t'sais, je t'amène jusqu'au bout, puis là, quand tu es totalement convaincu, là, je te dis, là, je rajoute un petit truc. T'sais, un petit truc qui est vraiment ce que je voulais dire in the first place, là. En tout cas, c'est fascinant de voir comment que le serpent, il fait ça. Puis ce qui est mystérieux, c'est que, en tout cas, les pères d'Église, après, disent qu'en fait, c'est vrai que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était une étape vers l'union avec Dieu. Que c'est pas faux. Puis que Puis qu'en fait, Dieu allait leur donner l'arbre de la connaissance plus tard. Mais c'est comme si le serpent, il veut devancer ça. Puis il veut créer le genre de geste révolutionnaire où là, tu le prends pour toi-même, tu sais. Puis ça, c'est aussi la différence entre. Parce que dans le texte, ça dit que quand que Dieu a créé Adam et Ève, ça dit qu'ils ont créé à l'image de Dieu.
Ils sont
Fait que le
déjà
serpent, tu sais,
comme des
ils
dieux.
sont déjà. Mais oui! Ils sont déjà ce que le serpent, il veut, il leur dit que ça, qu'ils vont devenir s'ils mangent l'arbre. Ça aussi, c'est fascinant, tu sais. C'est comme qu'est-ce que. Mais c'est Dieu qui les a créés à son image. T'sais. C'est pas eux qui ont pris ça pour eux. C'est là l'erreur. T'sais. Dans le fond, c'est là la chute. La chute, c'est. La chute est de tordre la réalité avec l'orgueil, on pourrait dire. T'sais, pour penser que ça m'appartient. Que mon identité m'appartient, dans le fond. Puis ça, une fois que tu fais ça, ben là, c'est ça la mort. Hein. Ça commence la mort. Parce que tu te déconnectes de ta source, puis là, ça commence la fragmentation tout de suite, immédiatement. Aussitôt que tu dis, t'sais, je ne suis pas quelque chose qui participe d'un truc au-dessus de moi, ça m'appartient. C'est moi, mon identité, elle est auto-générée, là, générée par moi-même. Aussitôt que tu fais ça, ben là, c'est sûr que la fragmentation vient.
Un autre aspect de la déception, que je trouve intéressant et que je comprends pas totalement non plus, c'est donc comment ça dit que Ève devient comme émotionnellement tentée, peut-être. Je sais pas comment dire mieux, mais une fois que le serpent il a fini de dire son mensonge, sa vérité, après ça, ça dit, la femme s'aperçut que le fruit devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Fait que, on peut comme voir que l'idée est comme rentrée, puis après ça, on regarde l'arbre, puis l'arbre commence à devenir attirant, puis là, il est comme pas capable de se retenir. Mais après ça, je trouve ça intéressant quand on passe à Adam aussi, parce que là, on n'a pas du tout l'échange qui se passe entre Adam et Ève, là. Ça fait juste dire, elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari et il en mangea. C'est tout. On n'entend pas plus que ça. Ça doit être relié à ce que tu disais tantôt sur le fait que Adam et Ève étant unis, on ne peut pas se séparer tant que ça, ce qui se passe dans les deux. Les yeux s'ouvrent en même temps, puis c'est comme si dès que Ève tombait, Adam allait tomber aussi.
Ouais,
Mais
moi,
je
c'est comme ça
comprends
que
pas
je le
totalement.
vois, là, parce que, tu sais, je veux dire, pourquoi qu'il n'est pas avec Adam, là, tu sais, c'est sûr que c'est au niveau, juste, t'sais, au niveau juste, la façon que tu le représenterais, là. Moi, de la façon que j'imagine, c'est vraiment pas du tout, tu sais, moi, j'imagine qu'Adam est à côté d'elle, carrément, là, tu sais, Adam est là, Ève est là, le serpent est là, tu sais,
Ouais,
Adam, il
faut
voit
t'en
pas le serpent,
mettre.
il entend pas le serpent, elle entend le serpent, puis là, tu sais, elle se tourne vers Adam, puis lui, ce qu'il voit, c'est Ève, t'sais. Mais derrière Ève, il y a le serpent. T'sais. C'est comme une hiérarchie, dans le fond. T'sais. Tu peux le penser comme ça, là. T'sais, je sais pas moi, le responsable d'un département, lui, il ne voit pas les travailleurs directement. T'sais. Les travailleurs, ils se plaignent à leurs supérieurs, puis les supérieurs, ils se plaignent à leur patron. Puis le patron, lui, il voit ce qui est là. Ils voient juste ceux qui se plaignent à eux. Mais en dessous d'eux, dans le fond, ils sont le résultat du mouvement vers le haut de tout le reste. Hein. Moi, c'est comme ça, je l'imagine. C'est comme ça, je le vois. T'sais. Mais c'est là, c'est vraiment une structure, là. C'est vraiment une structure de sens.
Ok, donc je pense qu'on pourrait penser à la prochaine étape, c'est ils se rendent compte qu'ils sont nus, puis ils décident de s'habiller. Pourquoi est-ce qu'ils se protègent soudainement? Parce qu'ils ne sont pas encore expulsés du jardin, il n'y a pas encore de pics qui viennent les attaquer, quoi que ce soit, mais comme quand même, ils ressentent le besoin de se protéger.
Mais c'est là que tu vois tout de suite le résultat de la chute. Dans le fond, tu sais, la chute, elle s'est passée. C'est-à-dire, la façon de le comprendre, c'est que, tu sais, quand on existe ensemble, tu sais, on pourrait dire qu'on n'a pas besoin de se protéger les uns des autres. Tu sais. Au moment où on existe dans un but commun, n'importe quel but commun, mais dans ce cas-ci, C'est-à-dire, ils sont unis en Dieu, c'est une bonne façon de le comprendre. Puis là, ce qu'ils font, c'est que ils se coupent de ça en essayant de le prendre pour eux-mêmes, en essayant de le maîtriser, puis de le saisir pour eux-mêmes. Puis là, immédiatement, ben là, la multiplicité, au lieu d'être comme une sorte de danse ou un corps pour l'unité, ben là, la multiplicité devient la multiplicité. Là, tout d'un coup, les autres deviennent mon ennemi, un danger pour moi. Puis là, je dois me protéger. Un, je dois me protéger de l'affaire dont je me suis séparé. Puis deux, on doit se protéger les uns des autres. Parce que là, tout d'un coup, l'unité qu'on avait auparavant, elle est partie. T'sais. Puis c'est pas du tout abstrait, là. T'sais, pense-le comme n'importe quelle corruption dans n'importe quel système. T'as un gouvernement, puis là, je sais pas moi, t'as le chef de la police qui décide que là, il va utiliser sa position pour son propre intérêt. Qu'il ne va plus utiliser sa position pour servir les raisons pour lesquelles il était là en premier. Mais là, aussitôt qu'il fait ça, là, tout d'un coup, il doit se protéger. Il doit se cacher de l'affaire en haut. Puis après, il doit maintenant, il compétitionne maintenant avec les gens autour de lui parce que là, les autres, ils vont voir qu'il ne sert pas le truc en haut. Fait qu'on doit se protéger les uns des autres. T'sais. Fait que c'est le début de la civilisation. C'est vraiment le début de la civilisation. T'sais, où là, ce qui est plus bas, t'sais, qui est plus loin dans la chaîne de causalité de ça, c'est les villes, c'est les guerres, c'est tout ça. C'est les maisons fermées, les coffres-forts, toutes les choses qui font que je dois cacher mes choses parce que toi, tu es en compétition avec moi pour mes affaires, mais on n'est pas ensemble vers un but commun. T'sais. Fait que c'est pour ça, ils doivent tout de suite se cacher.
Ça
Puis
fait du
se
sens.
cacher, ça devient la même chose que se blâmer.
Exact, juste
C'est comme
après.
tout de suite, ils se cachent, puis là, ils se blâment les uns les autres. Au lieu d'être ensemble, c'est de sa faute, c'est de sa faute, c'est de sa faute, parce que cette personne-là n'est pas avec moi. Cette personne-là est contre moi, en fait. C'est vraiment beau, là. C'est super beau comme ça se fait tout de suite, immédiatement. Clac, clac, deux coups comme ça.
Oui, exact. Parce que tout de suite après, ben, Adam et Ève se sont couverts de feuilles de figuier, sont cachés dans la forêt aussi, comme essayer d'être à l'abri de Dieu. Puis après ça, Dieu confronte Adam qui blâme Ève, Ève blâme le serpent. Puis après, il va avoir les malédictions sur chacune de ces personnes-là. C'est comme si tout était uni avant. Même le serpent, il n'était pas maudit avant que Adam et Ève chutent. Mais là, t'as la fragmentation tout de suite, puis là, comme la question, c'est, OK, quand Dieu vient rajouter les malédictions par-dessus ce qui vient de se passer, est-ce que c'est, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est, disons, juste comme
Ouais, moi, je
la
vois ça comme
nature?
le processus naturel. Ouais, c'est naturel de la chute. Attends, je veux juste donner, avant qu'on arrive à ça, écoute, je veux juste donner un exemple pour que les gens comprennent. C'est un exemple récent, puis c'est génial parce qu'on a vraiment vu la chute se passer devant nous, là. C'était pendant les Olympiques, OK? Pendant les Olympiques, vous avez suivi l'histoire de la fille, le breakdancer, comment qu'elle s'appelait? Je me souviens plus de son nom.
Je sais pas,
Il y avait.
l'Australienne?
Oui, l'Australienne. Ça, là, c'est vraiment, là, si tu veux comprendre la chute d'Adam et Ève, là. Cette histoire-là, c'est vraiment parfait. Parce que la fille a fait du breakdance, OK? Le breakdance, c'est quelque chose d'objectif. C'est quelque chose qui a une réalité. Puis cette réalité-là, c'est elle qui donne le nom à la participation dans son identité. C'est elle qui donne la valeur. Ça devient le juge, tu sais, qui décide aussi qu'est-ce qui participe dedans, qu'est-ce qui participe pas, qu'est-ce qui est du breakdance, puis qu'est-ce qui est, je sais pas moi, du ballet ou je sais n'importe quoi d'autre, là. Puis là, cette personne-là, elle a corrompu le système. Elle a décidé, à cause qu'elle avait du pouvoir, de prendre le breakdance pour elle. C'est pas le breakdance qui a décidé qu'elle était aux Olympiques, là. C'est pas les lois naturelles puis la réalité organique de c'est quoi le breakdance qui a fait qu'il était là. Elle s'est approprié par d'autres moyens. Puis là, elle est arrivée là devant. Puis là, elle a mangé on pourrait dire, elle a mangé le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal de façon inappropriée. Elle n'a pas reçu le fruit d'en haut. Elle n'a pas reçu le bon et le mauvais d'en haut.
Pourrais-tu
Elle l'a pris
expliquer
pour
plus parce
elle-même.
que des gens comme moi qui n'ont pas suivi l'histoire, comment est-ce qu'elle est arrivée aux Olympiques si c'était pas légitime? Elle
C'est
avait.
que son mari et elle, il était le directeur de l'association de breakdance en Australie. C'est eux qui avaient comme fondé toute l'organisation en Australie. Fait que là, tu sais, était dans le monde. C'est elle qui avait tellement de pouvoir. Son mari, il avait totalement le pouvoir pour décider qui allait. Puis là, ils ont dit, ah, c'est pas lui qui a décidé, ça s'est tout fait objectivement. Mais tu sais, on sait très bien que non. Là, on sait très bien que là, parce que c'est la femme du président, parce qu'elle est impliquée, ben là, on l'a laissé passer, on l'a laissé passer, on l'a laissé passer. Puis là, elle s'est retrouvée aux Olympiques devant. OK. Là, c'est vraiment ça de comprendre l'art de la connaissance du bien et du mal. C'est vraiment ça. Là, de la façon aussi que Mathieu le présente, là, c'est génial. Elle a essayé d'entrer dans le lieu très saint par elle-même. Elle a essayé là, de prendre la connaissance du bien et du mal. Puis à cause qu'elle l'a pris de la mauvaise façon, bien là, elle est tombée dans le mal. C'est-à-dire, elle est tombée dans le mal, puis elle a vu le bien à partir du mal. C'est-à-dire qu'elle a vu la gloire du breakdance, vraiment là. Elle a vu la gloire du breakdance, mais la gloire du breakdance, elle l'a démolie, elle l'a jugée. Parce que la gloire du breakdance est objective, là. T'sais, on sait c'est quoi le breakdance. Fait que si tu essaies de le prendre pour toi-même, là, tu vas te faire annihiler par les structures même de l'affaire dans laquelle tu es. T'sais. C'est ça qui arrive à chaque fois qu'il y a la corruption, c'est ça. À chaque fois que quelqu'un se trouve dans une position qui ne devrait pas être, qui est là pour les mauvaises raisons, qui n'est pas là pour les raisons pour lesquelles la chose existe elle-même, bien là, tu es en danger constamment de te faire annihilé par la gloire de cette affaire-là. Mais la seule façon de l'éviter, c'est de te cacher. T'as pas le choix. C'est de te cacher. T'es une personne corrompue dans le système, là, puis là, faut que tu te caches. Parce que si t'es un policier corrompu, là, t'es pas en train de faire ce qu'un policier devrait faire. Tu dois te cacher. Parce que si tu te caches pas, la gloire d'être un policier va briller sur toi, là, puis tout le monde va voir que t'es un mauvais policier. Tu fais ça, puis après, tu blâmes les autres. C'est parfait. Là, tu dis, ah, oh, elle, c'était génial. Ah, oh, tout le monde m'attaque. Tout le monde m'attaque. Tout le monde me critique. Tout le monde m'attaque. Vous êtes méchant. Arrêtez de m'attaquer. Arrêtez de me critiquer. C'est comme, hey, c'était génial. C'était vraiment, là, tu sais, si vous comprenez la chute de l'homme, là, c'est vraiment un exemple particulièrement brillant.
Donc, faut qu'elle se cache, faut qu'elle se couvre. C'est ça qu'Adam et Ève font,
Faut
mais
qu'elle blâme les autres.
ouais.
Faut qu'elle blâme les autres. Parce que, puis c'est ça, comprendre que quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vraiment la façon de le comprendre, c'est qu'ils ont en effet eu accès à la. C'est comme si Dieu, la gloire de Dieu, elle leur est apparue, là. Puis ils ont été obligés de se cacher. T'sais, jusque-là, on pourrait dire qu'ils voyaient la gloire de Dieu, t'sais, comme à travers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. T'sais, Mais là, une fois qu'ils l'ont pris, ben, c'est fait pour eux, là. Mais s'ils l'avaient reçu, t'imagines que cette femme-là, là, elle avait juste été, ça s'est pratiquée, elle a fait du breakdance, elle s'est défoncée, elle était bonne. Puis là, elle est vraiment invitée aux Olympiques de la bonne façon parce qu'elle est assez bonne. Mais là, elle a aussi la connaissance du bien et du mal, mais de l'autre bord, elle a la connaissance du bien et du mal où là, elle a maîtrisé la chose dans laquelle elle est. Puis là, ça brille sur elle, mais ça brille sur elle pour l'élever. Ça va la faire grimper. Parce que ça va montrer comment elle est bonne. Si tu sais c'est quoi un bon policier, puis tu as devant toi un bon policier, ben c'est à la gloire du policier. Mais si tu sais c'est quoi un bon policier, puis tu as un policier corrompu devant toi, il faut qu'il se cache. C'est la seule façon. Il faut qu'il se cache.
C'est ça soulève une bonne question là, que beaucoup de gens se posent en regardant le texte. C'est OK, là, Adam et Ève ont chuté. Ils auraient pu avoir accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal correctement s'ils avaient obéi à Dieu, mais là, ils ont mangé. Est-ce que ça aurait été possible qu'ils mangent pas?
Ben, c'est ça, tu sais, on m'a posé cette question-là récemment, là. Tu sais, c'est-à-dire, c'est quasiment impossible de. Tu sais, on pourrait dire Jésus, c'est ça. On pourrait dire que Jésus, c'est ça. Jésus, c'est celui qui fait le contraire d'Adam et Ève, dans le sens où, même dans son contexte, là, tu sais, où Ils réalisent que Dieu et le serpent disaient la vérité. Puis que dans le fond, quand Dieu il a dit, quand Dieu il a dit, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir, la réalité, c'est que c'était vrai tout le temps. Si Dieu leur avait donné l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils seraient morts aussi. C'est juste qu'ils seraient morts d'une autre façon. T'sais, ils seraient morts d'une façon qui les aurait amenés vers quelque chose de plus haut. Parce qu'il faut mourir à soi aussi pour aller plus haut. Il y a une sorte de mort qui est comme une transformation de toi qui t'amène plus haut. C'est pour ça que les chrétiens, on utilise l'imagerie de la mort comme quelque chose de positif. C'est-à-dire que tu dois mourir pour aller vers Dieu, mais tu peux aussi mourir pour aller par en bas. Puis Adam et Ève, c'est ça qui leur est arrivé. Ils sont morts pour descendre par en bas. Fait que oui, ça aurait été possible, mais s'ils avaient fait ça, ils seraient aussi morts, mais d'une autre façon. Ils seraient, dans le sens qu'ils seraient devenus, ils auraient perdu un aspect d'eux. Il y a une partie d'eux qui serait comme, qui se serait comme estompée, puis ils seraient montés vers quelque chose d'autre. Puis c'est pour ça que tu as comme l'idée dans la Bible que l'agneau de Dieu est sacrifié avant la fondation du monde, t'sais. T'as comme l'idée qu'en fait, la mort, puis c'est dur de le comprendre, parce qu'on voit la mort comme étant quelque chose de juste négatif, mais qu'il y a un aspect de la mort, en tout cas, pas exactement celle qu'on comprend, mais un aspect de la transformation, on pourrait dire, qui était déjà là, qui est à la source de la réalité. Il y a un auteur, Timothy Petitsak, que j'ai déjà interviewé quelques fois sur ma chaîne. Lui, dans son livre, The Ethics of Beauty, il dit quelque chose de vraiment scandalisant, mais qui est important, selon moi, qui est vraiment bon de comprendre. Il dit, quand Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a eu accès à l'arbre de la vie. Puis la raison pourquoi il a eu peur, puis qu'il a été terrifié, puis qu'il s'est caché, c'est parce que ce qu'il a vu, c'était Jésus sur la croix. Il n'était pas prêt pour ça, là. Il n'était pas prêt au sacrifice de soi qui est nécessaire pour l'entrée dans ce mystère-là. C'est un peu terrifiant de penser comme ça, là. Mais il y a quelque chose par rapport à ça, je pense, qui est important à comprendre. T'sais, si on veut saisir un peu c'est quoi, de quoi ça parle, puis de saisir aussi comment Jésus, il vient résorber le mystère dans ce que lui, il fait, là.
C'est intéressant ce que tu as dit plus tôt, que quand Dieu a dit que si Adam et Ève mangeaient du fruit, il allait mourir, c'était pas un genre de mensonge ou je sais pas, un piège ou un risque de malédiction, là. Comme c'était vrai là qu'il allait mourir, même si Dieu leur avait donné, il aurait aussi appris à mourir de la bonne façon. Puis ça, c'est sûr, là, ça fait directement avec ce que tu disais, le fait que l'arbre, en fait, ultimement, c'était la croix, c'était Jésus, où il y a la mort à soi-même qui passe. C'est intéressant, je t'avais pas entendu dire ça exactement
Ouais,
comme
mais
ça.
c'est dur de penser comme ça. C'est dur de penser comme ça parce que on a toute l'idée d'une causalité avec le temps. Qu'on pense que disons, le sacrifice de Jésus, c'est juste une réaction à la chute. Mais il y a quelque chose de plus profond qui se passe. Sinon, ça ne dirait pas dans le texte que l'agneau est sacrifié avant la fondation du monde. C'est-à-dire, pourquoi? What? Pourquoi qu'il y a un sacrifice avant la fondation du monde? C'est pour ça que Saint-Maxime dit des choses folles comme. Que Jésus crée le monde sur la croix. Et que quand Jésus est sur la croix, il est en train de créer le monde. Le monde au début, là, pas. C'est vraiment la création du monde se passe sur la croix. Ils vont dire les pères disent des choses bizarres comme la crucifixion s'est passée dans l'éternité. Ils vont dire des choses comme ça pour essayer de capter le mystère de ce qui se passe dans la
Ouais.
crucifixion.
Saint-Maxime, il dit
Mais c'est
aussi
ça.
que la fin du monde a été réalisée. Comme, tu sais, la fin aussi, c'était ça. Le début puis la
Oui,
fin
c'était
ont
ça aussi.
été
C'était le début et
réalisés.
la fin, ils sont sur la croix. Oui. Mais ça, c'est pour ça que l'image de la fin, même l'image de la fin, l'image de la Jérusalem céleste, c'est juste une version du Jardin d'Éden, folks. C'est vraiment juste. C'est une version du Jardin d'Éden qui est comme remplie, on pourrait dire. Mais c'est pour ça qu'au centre de la Jérusalem céleste, il y a l'arbre de la vie, l'eau de la vie. Puis là, il y a le Fils de l'homme, puis l'agneau, puis le mur autour, tu sais. Puis le mur, c'est comme la ville, mais le mur, il est là. Le mur, il est là au début aussi, là. Mystérieusement, là, on ne sait pas exactement, tu sais. C'est dur de le figurer au côté narratif, mais il y a un mystère par rapport à ça, là. C'est sûr.
Puis ça, on va.
Ouais.
Je pense pas qu'on va le temps de parler de Jésus aujourd'hui, parce que là, il nous reste juste une dizaine de minutes. Fait qu'on fera le
Mais
prochain épisode
peut-être qu'on
là-dessus.
peut juste, on peut juste parler des conséquences que Dieu donne, puis comment les conséquences sont une image de ce qui se passe, en fait, dans l'histoire, que c'est pas du tout arbitraire. T'sais, parce que ce que j'ai dit, c'est le geste que le serpent propose, dans le fond, c'est un geste révolutionnaire. C'est un geste où ce qui est en bas, maintenant, essaye de prendre pour lui-même ce qui est en haut. Puis une fois que ça l'arrive, ben là, ça crée une sorte de fragmentation. Puis ça fait, c'est une fragmentation qui crée ce processus-là en dévolution, on pourrait dire. Là. Fait que là, une fois, tu sais, pense-y, là, comme aussi dans une organisation, tu sais, une fois que le chef est corrompu, ben là, tous les gens en dessous de lui vont devenir corrompus, pas nécessairement, mais ça l'ouvre la porte à une sorte de dévolution qui amène, qui dégénère le monde. C'est pour ça que dans les pays où les présidents, disons, où les chefs sont corrompus, la corruption, elle devient endémique, là, elle descend, tout le monde devient corrompu parce qu'il y a comme une sorte de révolution. Fait que là, ce que Dieu dit, il dit là, vous avez mangé le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. T'sais, vous êtes isolés de Dieu, vous êtes cachés, vous êtes protégés, vous êtes blâmés les uns les autres. Et là, voici ce qui va arriver. Là, il dit, le serpent va manger de la poussière. Puis là, il faut se rappeler, c'est quoi que Dieu a créé Adam à partir de la poussière. Fait que Dieu, il prend la poussière, il la met ensemble, puis là, il met l'esprit de Dieu dedans. Puis quand Adam, là, il dit à Adam, quand tu vas mourir, il dit ça à la fin de la malédiction, il dit, tu viens de la poussière et la poussière, tu retourneras. Okay. Mais là, le processus de retourner à la poussière, c'est ça, le serpent qui est le changement. Mais là, lui, ce changement-là, il va juste manger la poussière. C'est-à-dire, il va juste être tourné vers l'extérieur, vers la fragmentation, parce que c'est ça la poussière. La poussière, c'est des choses qui n'ont pas de relation ensemble. Fait que lui, il va juste manger la poussière, puis là, il va se retourner comme ça. Puis là, il va attaquer la cheville de l'homme. Okay? Fait que lui, il mange de la poussière, puis là, il attaque la cheville de l'homme. Ça, c'est la structure de la révolution. Okay? Ève, c'est la même chose que Dieu dit à Ève, à son niveau. Il dit, toi, tu es l'agent qui produit la multiplicité. C'est ça que tu es. Tu es celui qui fait que Adam, maintenant, il y en a plein de petits Adam. Mais là, ça va être de la douleur. C'est-à-dire, ta fonction de multiplier Adam va être dans la souffrance. Puis là, toi, tu vas te retourner vers Adam, puis là, tu vas essayer de prendre de lui aussi. Puis là, après ça, il dit à Adam, puis là, il dit, toi, maintenant, tu vas imposer, puis là, il dit la même chose, il dit au serpent que là, il faut qu'il écrase le serpent. Puis après ça, il dit à Ève qu'il doit, il dit à Ève que ton mari va dominer sur toi. Puis là, après ça, Dieu dit à Adam, ben là, toi, là, la terre va produire des ronces puis des épines. La multiplicité va t'attaquer. Puis là, toi, tu vas devoir la dominer. Fait que souvent, on pense que la chute, ça l'amène juste le chaos. Mais c'est pas ça que ça l'amène. Ça l'amène deux aspects. Ça l'amène, un, le chaos qui monte vers le haut, puis deux, une genre de tyrannie de pouvoir qui descend sur le monde. Puis ces deux-là, ils vont jouer l'un contre l'autre tout le long de l'histoire de l'homme. C'est-à-dire que ces deux extrêmes, on pourrait dire c'est le ciel et la terre qui sont comme séparés maintenant, qui sont en train de se séparer. Fait que là, le ciel devient tyrannique. T'sais, tout ce qui est autorité, l'identité, toutes ces choses-là est en danger de devenir une genre de tyrannie. Puis tout ce qui est en bas, potentiel, transformation, changement, devient une sorte de danger, un monstre qui va avaler l'identité. Puis là, ces deux-là, là, ils vont faire ça comme ça. Puis là, ils vont se voir comme des ennemis. La même façon qu'Adam et Ève se voient comme des ennemis aussitôt qu'ils chutent. Fait que la structure de la malédiction, c'est juste une continuation directe de la première de ce que Dieu a dit au début. C'est ça, la mort. La mort, c'est l'esprit qui sort de la poussière, puis la poussière qui fait ça. Mais il y a quelque chose d'encore pire que ça. C'est ce que Dieu décrit, c'est que la poussière qui essaie de manger le ciel, puis le ciel qui essaie d'écraser le monde, t'sais. Puis cette imagerie-là, comme je dis, elle va multiplier. Puis des fois, le pire, c'est que des fois, elle n'est pas négative. Comment je peux dire? C'est juste Dieu, là, la malédiction, qui dit, c'est juste ce qui va arriver. Dites juste, vous avez commencé ça, c'est ça le processus, puis là, voici ce qui va arriver. Puis il y a des images dans la Bible où ça, c'est positif, il y a des images, c'est pas négatif. Quand on parle de Saint-Michel, là, qui terrasse le dragon, ben c'est cette image-là. C'est l'image du ciel qui est obligé de terrasser le serpent. C'est l'image, c'est une version de quand Dieu dit, le serpent va mordre ta cheville, puis toi, tu es obligé de l'écraser sa tête. Ben quand Saint-Michel, il fait ça au grand Satan, à la fin, dans l'Apocalypse, bon, on voit ça ici dans Isaïe, je pense, ben c'est une version de ça, tu sais. C'est comme quelque chose qui est nécessaire, là, qui va maintenant faire partie du monde jusqu'à la fin. T'sais. Puis à la fin, il va avoir une nouvelle communion qui est un nouveau ciel et une nouvelle terre, qui ne sont pas en compétition, qui ne sont pas en train de se battre, mais qui vont être unis ensemble de la bonne façon. Puis c'est ça l'image de la Jérusalem céleste, finalement. C'est l'image du jardin.
Parfait. Je pense que c'est une bonne note sur laquelle finir pour aujourd'hui. Il va y avoir d'autres choses à dire pour plus tard, mais on peut se les garder
Il
pour
y
un
a tellement de choses
prochain.
à dire sur ce texte-là. Il y a tellement de choses à dire sur ce texte-là. C'est comme on pourrait en parler pendant des heures. On peut en parler aussi. Je pense que c'est une bonne idée dans le prochain de peut-être voir comment Jésus il vient comme récupérer toute cette histoire-là. Là, parce que, tu sais, puis moi, j'ai l'impression que quand j'en parle, j'ajoute juste 5% de ce qui est là. Là. Chaque mot, chaque phrase est tellement pleine de sens, là. C'est que
Ce
quand
qui
tu
m'a
médites, tu réalises comment ça décrit notre monde vraiment de façon incroyable.
surpris aussi, c'est que je pensais pas qu'on aurait disproportionnellement autant de choses à dire versus Genèse 1 puis 2. Genèse 1 2, tu sais, on a quand même fait des épisodes au complet dessus, mais j'ai l'impression que là, un épisode sur Genèse 3, c'est vraiment passé, là. Peut-être, je sais pas, vu que c'est plus proche de. En fait, je sais pas
Plus
pourquoi,
proche de nous, là.
mais ouais,
C'est
c'est peut-être
parce que
ça,
ça
ouais.
a plus rapport avec ce qu'on vit. C'est-à-dire la chute, on la vit constamment. Les effets de la chute, on les vit constamment. T'sais, on est constamment en train de répéter le geste révolutionnaire qu'on voit dans le texte. On le fait à plusieurs niveaux. Puis on vit avec les conséquences. C'est comme quand on voit dans l'histoire comment ça décrit les conséquences de ça. Ben, c'est super important. Puis parce qu'on vit dans un monde de tyrannie et de corruption. T'sais, on vit dans un monde où on voit nos autorités agir pour leurs propres intérêts, puis on voit aussi les gens en bas qui se chamaillent, qui se chicanent, qui n'arrivent pas à venir, à se, à, sont pas capables de venir ensemble t'sais, vers un but commun. Puis là, à cause de ça, ben, c'est normal que ce texte-là, il nous touche autant.
Parfait. Très bien. Ben, je pense que c'est une bonne note pour aujourd'hui, puis on continuera dans le prochain épisode. Merci, Jonathan. Merci, tout le monde.
Hey, merci à toi, Jean-Philippe. Puis désolé d'avoir constamment. Je pense que je t'ai interrompu comme 20 fois. Ça m'excite tellement, ce sujet-là, il est vraiment mon sujet. Puis j'arrête pas de t'interrompre. J'ai comme, oh, quelle affaire, toi.
C'est bien, c'est parfait. Puis en plus, je pense qu'on a un petit délai, fait que les interruptions, des fois, avaient l'air pire qu'elles étaient. Mais bon, c'est très bien. Je suis
Ok.
content, tu avais beaucoup de choses à dire aujourd'hui, effectivement. Mais c'est parfait. Tant mieux.
Allez, salut tout le monde.
Bye.